Vous écoutez France Culture.
Phèdre en Inde, de Jean-Christophe Bailly, lu par l'auteur. Une adaptation de Jean Torrent. En janvier 1990, Phèdre fut créé à Bhopal, en Inde, par la troupe du Rangmandal Bharat Bhavan, dans une mise en scène de Georges Lavaudan, qui apparaîtra ici sous le nom de Jo, que l'amitié lui donne. Associé dès le départ à cette expérience singulière de translation, Jean-Christophe Bailly la relate sous la forme d'un journal de bord qui est à la fois un carnet de voyage et un journal de travail. La découverte de l'Inde s'y tresse à la fabrication du spectacle, tout se passant comme si les deux enjeux se rejoignaient. Trois séjours successifs en Inde, d'août 1989 à janvier 1990, forment la matière de ce journal. Premier épisode, l'Inde, je n'y pense pas, elle affolerait plutôt.
11 mai 1989, Paris. Phèdre en Inde, Phèdre en hindi. Au départ, une résonance. Plutôt qu'à un bruit, on pense à du silence. Faire exister du silence entre une origine, la France, et une destination, l'Inde. Autrement dit, décider d'une exposition de l'origine, trouver quelque chose de pur qui atteigne ce silence. Racine s'imposait, racine qui n'est que langage. À travers le moins traduisible s'esquisse la possibilité d'une transmission, d'un cadeau. La langue de Racine pensée comme l'équivalent de ce qu'est, pour nous, le théâtre dansé de l'Inde. L'Inde, je n'y pense pas, elle affolerait plutôt. C'est lentement qu'il faudra y venir, puisque l'irruption sur place sera totale. Si je récolte ce que j'en sais, je trouve si peu de choses. De l'effroi fasciné d'un documentaire vu dans l'enfance à des récits de voyageurs et à des livres, en passant par la musique de là-bas, je ne rencontre que des images, et pas du tout tourbillonnantes, mais détachées, s'imposant une à une, comme un théâtre d'ombre. 15 mai. Description de Bombay et de Delhi dans l'illusion des ténèbres de Népal. Avancer d'un côté avec Racine, patiner le cuir rouge du volume de la Pléiade, et de l'autre avec des livres sur l'Inde, sans idée préconçue, sans forcer les rapprochements ou les distances. Le soleil s'éteint derrière le marronnier immense. Des filaments de lumière tremblent sur les murs blancs de la chambre dénuée d'ornements où je lis allongé. Mon dessus de lit vient d'Ahmedabad, capitale du Gujarat, dont je ne sais rien. Voyage des noms et des objets à la surface de la terre. Être ici en pensant à un là-bas que j'ignore, dont je m'efforce de m'instruire. Les images gonflent comme des voiles, puis se détendent. Une fois sur place, on est sans voile, sans image, encalminé dans l'opaque. Puis, dans le souvenir, les voiles se regonflent et le bateau repart. Voyager, c'est être immobile. C'est aller à la rencontre de l'immobilité dans ses formes locales pour que tout claque au vent ensuite à l'intérieur. 29 mai. Dans la mesure même où le drame racinien constitue un absolu de la représentation, du système occidental de la représentation, tout le travail devra consister à faire voir le fonctionnement de cet absolu. Il faudra donc utiliser l'effet de distanciation de la translation hindoue pour trouver la juste distance. Il ne peut s'agir en aucun cas d'interpréter, mais de laisser faire, d'engager ce qui vient à venir et à être. C'est en un sens aussi simple que d'aller allumer un feu à 7000 km de chez soi. 2 juin. relus l'odeur de l'Inde de Pasolini, dont je conservais un souvenir flou, kaléidoscopique. Ses observations rejoignent souvent celles de Népaule. Il n'a aucune idée de l'Inde, rien qui puisse entraver le mouvement de son regard abandonné et souverain. Il va, il descend le long d'une basse continue de misère et de lourdeur qui se déchire sur les visages, jusqu'à cette stase étrangement calme du moment final à Bénarès. Les morts brûlent comme du bois sur les berges, parmi les vivants qui parlent et se chauffent à l'intérieur d'une réconciliation, comme en une apocalypse qui contiendrait son propre matin, sa délivrance. 28 juin. Briques des mots dans le poème racinien formant une à une le corps du langage. Nom commun et nom propre forment et empilent le feu qui brûle dans le poème jusqu'à la mort d'Hippolyte, son corps au bûcher du langage. Ce pouvoir des noms propres, ce qu'ils disent au langage de sa légende, je le retrouve en lisant le Thésée dans les vies parallèles de Plutarque, Thésée dévoreur de femmes, Thésée dansant à Délos sur le chemin du retour. Mais comment faire entendre là-bas, en Inde, la façon dont résonnent ici ces noms de femmes, Périgonée, Ariane, Antiope, Phèdre, Hélène, comment, même si Thésée ressemble, si l'on veut, à un héros de la mythologie hindoue. 13 juillet. Décrit par Sandrard, Bellory et Leblond de la Tour, le petit théâtre que s'était construit Poussin pour composer les scènes de sa peinture. Figures de cire qu'il habillait, formant des draperies avec la pointe d'un petit bâton, et disposait dans l'espace, jusqu'à ce que le tableau ainsi simulé s'impose à lui comme une évidence. Cette scène portative de repentir presque vivant, qui traduit le théâtre en peinture, éclaire à son tour tout le théâtre. De loin, la scène indienne apparaît comme ce petit théâtre, avec un dessin passé au fond dans une rainure, pour faire exister la lumière du matin, puis celle d'un jour aveuglant, puis celle du soir.
Your attention, please. Your attention, please. Your attention, please. Indian Airlines announces the departure of their flight IC-408 to Calcutta. Passengers are requested to proceed to the aircraft.
Août 1989, Delhi. Quand on aura dit l'air moite, les vaches des alentours de l'aéroport, la foule, les couleurs, les mendiants, le contraste entre les larges avenues rectilignes de New Delhi et les engorgements soudains de la ville ancienne, entre les rickshaws, autour des cages à poules d'un marché aux volailles dans l'odeur de la fiente. Quand on aura dit la couleur rose, proche du rose alsacien ou rhénan, dont sont faits les murs du Fort Rouge ou la grande mosquée Jama Masjid, et le dépaysement intégral de cette mosquée comme du bazar qui l'entoure et l'assiège. Quoi qu'on fasse, on ne peut que tomber dans la violence pure de l'impression, point humide d'images collées sur la rétine, comme la chaleur l'est sur le corps, puis quelque chose de plus étrange, de plus exubérant, de plus indéfinissable, à Nizamuddin, enclave de superstitions musulmanes, labyrinthe où l'on s'avance parmi les marchands d'offrandes, jusqu'à des tombeaux moghols éparpillés, autour du cénotaphe d'un derviche qui sanctifie tout l'espace. La ferveur qui est là comme une composante de l'air qu'on respire, quoi qu'on puisse en penser, impressionne. On n'en pense d'ailleurs rien, elle est là, avec quelque chose de doux et de farouche. On la subit, venue vraiment d'un autre monde, goutte tombée sur le marbre qui brûle la plante des pieds qu'il convient, bien sûr, d'avoir nue, marchante éberluée, par l'invraisemblable distance de tout ce qu'on touche ou frôle. Et l'on ne sait pas si l'on ne comprend pas, ou si l'on devine, si l'on ne consent pas, ou si l'on accepte. Mais le déversement a lieu, et l'on est dessous. Et l'on savait que ce serait ainsi, c'est-à-dire différent de tout ce qu'on pouvait prévoir. Mais cette différence même que l'on est venu chercher, voici qu'elle accable et assèche. Il y a une beauté que l'on n'aura pas vue, pas encore, qui est comme une eau, qui se puise versé le soir avec des silhouettes qui passent en parlant dans la nuit chaude. Réunion. Celle du soir avec Krishna Baldev Ved, écrivain qui a traduit pour nous Phèdre en hindi, et qui s'inquiète de notre inquiétude, qui peut sembler discourtoise. Mais que savoir des rythmes, des images, devant le bloc obscur d'un texte devenu soudain inconnu? Je fais un tour dans le jardin de la maison où nous sommes. Des voix viennent de l'intérieur, des rires. Il y a là une assemblée composite d'Indiens et de Français. La chaleur agrippe le corps comme une cuirasse. Les cuisiniers bengalis s'affairent dans un petit bâtiment. Les lumières du voisinage sont faibles ou indistinctes. Je prends lentement conscience de fouler un autre sol, une terre. Tout va si vite. août, Bhopal. L'avion parti à 6h30 de Delhi a atterri dans une gerbe d'eau. Tout semble noyé, ployé, humide. Dans la voiture, il y a de petits rideaux que j'écarte pour voir l'herbe si verte, puis les faubourgs aux échoppes de bois et de tôles ondulées. Nous traversons la ville, puis une sorte de digue qui sépare les deux lacs. Un éléphant avance en tangrant sous la pluie. L'hôtel est moderne, banal. En face de la chambre monte une avenue. Outre le fait que la vitesse des véhicules n'est pas grande, la disposition de cette avenue produit un effet de zoom qui donne à tout ce qui la monte ou la descend l'air de circuler au ralenti. L'Inde est derrière la vitre, nous la voyons, mais sans y croire encore. Le soir, l'appel du muezzin parvient de la vieille ville. Bhopal est musulmane à 50%. Si l'exotisme religieux et la misère sont des écrans qu'il faut traverser pour pénétrer l'Inde réelle, ils s'imposent pourtant tout de suite comme des gardes du corps qui conduisent là où l'on n'a pas forcément envie d'aller. Le Bharat Bhavan, où nous allons travailler, est comme un îlot séparé de la ville. À la fois théâtre, musée, bibliothèque, en fait véritable maison de la culture, ancrée au bord du lac supérieur face à la ville qu'il regarde, il semble faire le signe d'une Inde nouvelle, peut-être prématurée. Mais les visiteurs sont nombreux, heureux d'être à l'abri pendant que la pluie redouble. L'architecture est belle, presque invisible. Suite de pavillons rectangulaires, formant un système de cours intérieures descendant en pente douce vers le lac. Sol en dallage de pierre grise et mur de pierre rose foncé, baie vitrée, le langage du mouvement moderne mais discret, heureux, ni solennel ni monumental. Un écureuil court dans les salles du musée d'art populaire de l'État du Madhya Pradesh, où ce qui est exposé venant de lointains villages est très beau. J'imagine la joie de Miro s'il avait pu voir certaines compositions colorées qui sont là. Le lac, au-delà de l'arc de cercle du théâtre en plein air, ressemble à une petite mer, gris-vert, avec de légères crêtes blanches que la pluie entraîne jusqu'au bord, sous un riz qui semble perpétuel.
Le contact entre les civilisations, il ne faut pas se cacher qu'il n'a de sens que s'il est brutal. Il a été si brutal dans la guerre et avec le colonialisme qu'il ne faut pas, que, lorsqu'il a lieu dans la paix, le jouer de façon angélique. C'est deux mondes qui se rencontrent et ce contact, on ne sait pas exactement ce qu'il va produire. Et l'expérience qu'on a voulu avoir, c'était de ce télescopage et voir ensuite, travailler ensuite avec. Ce n'est pas du tout un spectacle pensé dans l'exotisme. C'est un spectacle anti-exotique, puisque l'exotisme est une sorte de, enfin pour nous, de nuage d'idéologie qui flotte, quoi.
août. Promenade en rickshaw puis à pied dans le chowk, le bazar, le cœur de la ville, sous une pluie tantôt violente, tantôt éclaircie. Autour des mosquées s'en vont rues et ruelles dans un plan indistinct. Il y a de petites places, certaines maisons comblées d'usure sont assez belles, avec des balcons de bois ouvragés, bleus, de tous les tons du bleu, mais fatigué, rafistolé, parcouru de fils et de câbles en tous sens. Partout, des boutiquiers attendent. Ceux du textile affalés, d'autres assis, impavides entre les marchandises empilées, suspendues. Le bazar de Bhopal n'a sans doute rien de très particulier, mais cette banalité même l'ouvre devant nous comme un labyrinthe et comme l'Orient, mais un Orient sans métaphore, trivial, balancé dans un flot de théières et de bouilloires au flanc rond, profilé par le pont Nassari, flottant à l'arrière d'un scooter. Vers la grande mosquée, qui est l'une des plus grandes de l'Inde, la ville se mue en faubourg. Un camion plein de bouteilles de gaz gît au milieu de la rue, le train arrière englouti dans la boue. L'après-midi, première rencontre avec l'équipe dans son entier. Étrangeté de ce moment un peu solennel qui nous projette face à une trentaine de visages qui, surgis de ces rues traversées le matin, se donnent soudain si proches sur la face arbitraire de l'expérience qui s'engage. Ces hasards déjà surprenants dans les productions sédentaires, ces vies inconnues brusquement présentes avec les corps qui les portent et les éparpillent, prennent, dans le cas présent, une dimension supplémentaire. C'est comme une densité physique que l'exotisme des costumes, des chevelures, des regards imposerait. Obstacle à franchir avant de pouvoir revenir aux dimensions techniques du projet. Désenclavé, on voit. On ne voit rien du tout d'abord. Puis il y a un sourire, des pieds nus, une voix, un rire. Et ce qui s'enclenche alors est vraiment pur et joyeux, plongé dans cette sollicitude qui serait immanente au contact des civilisations, du moins quand il prend cette forme de pure approche, dénuée d'arrière-pensée. 8 août. 77,5 mm de pluie hier sur Bhopal, rapporte le Madhya Pradesh Chronicle. Mais ce matin il ne pleut plus, une souris est accrochée dans le rideau. Visite de différents lieux où les représentations pourraient se tenir. Quelques restes de murailles dans les faubourgs, sur des escarpements qui dominent les lacs, puis une sorte de prairie ou de green, devant une prison, puis deux collèges. Plus loin, sur la même hauteur, mais tout au bout et vraiment sur le lac dont on voit qu'il confine à des marais dû sans doute à la mousson, un palais abandonné, Ahmedabad Palace, lequel, quoique ouvert au vent, est en partie squatté par quelques familles. Des balles de mèche de papier sont entreposées sous les colonnades, un vieux canon traîne dans un coin, l'ensemble présente les traits d'une ruine moderne, dont l'aspect un peu neutre, sans trop de caractère mais attachant, pourrait convenir, comme une structure libre d'emploi. En tout cas bon pour un film, si c'était un film que nous faisions. Puis la campagne, jusqu'au lieu dit Islam Nagar, qui fut la résidence d'été de Dost Muhammad Khan, le fondateur de Bhopal, et qui date du XVIIIe siècle. À mi-chemin, nous devinons que ce sera trop loin. Une vapeur chaude monte de la terre. Sur le bord de la route, des maisons qui sont comme des crèches, des paysannes qui sont comme des princesses et des rois mages en guenilles. L'après-midi, nous demandons aux acteurs de bien vouloir jouer impromptu des extraits de leur répertoire, ce à quoi ils se prêtent avec joie. Il n'est pas d'autre moyen pour nous, si nous voulons apprendre à les connaître et pour voir apparaître parmi eux, par-delà l'écran de la langue inconnue, Thésée ou Phèdre, Hippolyte ou Aricie.
Dès qu'il y a eu cette idée de l'Inde, j'ai immédiatement pensé à Racine. Bon, je n'étais pas à l'époque précisément sur Phèdre, mais tout de suite j'ai pensé à Racine. Ce qui est curieux, puisque c'est un auteur donc, que je n'ai jamais monté, moi personnellement, et pourtant c'est à ça que j'ai pensé immédiatement. Comme je ne connaissais rien de ce pays, ni sa situation économique, ni sa situation sociale, ni sa situation artistique, ni ses traditions, j'ai pensé que plutôt que d'essayer moi de m'accommoder, il fallait amener l'objet le plus étrange, le plus français d'une certaine manière. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus français que Racine, parce que c'est vraiment la chose intraduisible.
Tout oscille entre une difficulté qui peut sembler insurmontable et l'idée d'une facilité miraculeuse. Jean-Pierre Vergier, venu avec nous seulement quelques jours pour s'imprégner des lieux et choisir des tissus pour les costumes, Kriti Varma, jeune et jolie indienne parfaitement bilingue qui l'assiste, et Philippe Langlais qui nous avait accompagnés, sont repartis pour Delhi. je reste seul avec Joe. Nous nous sentons un peu comme dans une maison dont les invités sont partis et nous hélons un rickshaw pour aller dîner en ville. Nous échouons dans le restaurant d'un hôtel gardé par un militaire. Un bar désert trône au-dessus de la salle à manger où il n'y a que des hommes. À la télévision passe un film de Bombay. En pleine action, les acteurs s'interrompent pour pousser leur romance. Puis l'affaire reprend, toujours manichéenne, simpliste, criarde, agitant des visages gommeux, 100 fois moins beaux que ceux que l'on croise dans la rue.
C'était Phèdre en Inde, de et avec Jean-Christophe Bailly, avec des extraits du documentaire de Jean-Paul Sivérac, Phèdre à Bhopal, une production de la Fémis. Équipe de réalisation, Anil Bosselet, Éric Boisset, Benjamin Hu et François Christophe. Phèdre en Inde a été publié en 1990 aux éditions Plomb dans la collection Carnet, dirigée par Alain Weinstein. Une seconde édition de ce journal apparut en 2002 chez André Dimanche éditeur.